Radio Spirale. Dans le cadre des célébrations de leur 15e année d'édition indépendante, Lux Éditeur invitait le public à venir rencontrer André Chiffrin, éditeur chez Pantheon Books et The New Press. L'événement se déroulait à la librairie Le Port de Tête en novembre 2010.
Alors bonsoir, mon nom est Louis-Frédéric Godet, je fais partie du collectif éditorial de Lux Éditeur. Et je voudrais vous remercier de votre présence ici ce soir pour ce premier événement qui marque notre 15e anniversaire. Vous savez, 15 ans d'édition critique et indépendante, ce ne serait pas possible sans l'implication intense des artisans qui composent cette maison. Alors ce soir, j'aimerais souligner la présence, entre autres, de Marie-Ève Lamy, qui fait partie de notre équipe, de Ève Delmas, qui est juste ici à ma gauche, de Marc Fortier, qui malheureusement ne pouvait pas être là ce soir, d'Alexandre Sanchez, qui a travaillé pendant un bon bout de temps avec nous durant la dernière année et qui a organisé la soirée ce soir, et également de Camille Ledose, qui est la représentante de Lux Éditeur à Paris. Et vous savez, les activités d'une maison d'édition indépendante ici au Québec, ce serait très difficile si nous travaillions seuls. Et j'aimerais souligner la grande importance d'un partenariat avec les éditions Éco-Société et les éditions du Remue-Ménage, avec qui nous travaillons en étroite collaboration ici au Québec et en France, des éditions La Fabrique, où les ouvrages de Monsieur Chiffrin sont publiés. Alors, pour marquer notre 15e anniversaire, on aurait pu faire une série d'événements sous l'étiquette ou la marque de la célébration. Mais lorsqu'on a discuté en équipe de la manière dont on voulait souligner notre anniversaire, ça allait de soi que l'on souhaitait provoquer un débat d'idées. Et vous savez, Lux Éditeur, c'est une maison d'édition engagée qui publie des ouvrages marqués à gauche en histoire sociale des Amériques, en philosophie libertaire, en théorie critique des sciences sociales. Et souvent dans nos discussions, on a l'impression qu'ici au Québec, pour plusieurs raisons qui pourraient être attribuées au chauvinisme culturel ou au chauvinisme social, que les questions d'édition indépendante et de convergence sont souvent absentes des débats qui font rage dans le milieu culturel. Je parlais de différence. Vous savez, c'est marqué dans plusieurs domaines. Ici, au Québec, on a la prétention de mieux s'occuper de nos pauvres. On a la prétention d'avoir moins exploité nos Indiens. Et c'est des thématiques qu'on essaie de retravailler en publiant des ouvrages engagés. Et donc, c'est un peu dans ce contexte-là que ce soir, on a fait appel à un invité de marque, à quelqu'un qui s'est prononcé sur la question depuis de nombreuses années. Quand je parlais qu'on n'accorde pas vraiment d'importance au sujet de la concentration éditoriale, le Québec n'a pas échappé à ces dynamiques-là au cours des dernières années. Il y a un grand nombre de maisons d'édition, d'abord dans le milieu scolaire et dans le milieu d'éducation, qui ont été rachetées par des grands groupes éditoriaux, que ce soit Québécois, des maisons étrangères. Et dans les dernières années, il y a aussi un certain nombre de maisons d'édition littéraires qui ont été rachetées et qui ont donné naissance à de nouveaux groupes. Bon, pour pas froisser personne, je ne les nommerai pas, mais je pense que vous pouvez tous imaginer, ou en tout cas, il y a des noms qui vous viennent en tête. Peut-être avant de laisser la parole à Éric et à Monsieur Chiffrin, juste pour avoir une idée des gens qui composent l'auditoire ce soir, je vous demanderais ceux qui travaillent dans le milieu de l'édition indépendante de lever la main. Merci. Et et à l'ère de Facebook où on peut collectionner les amitiés à un rythme très, très rapide, je vous demanderai quels sont les membres de l'auditoire ce soir qui se considèrent comme des alliés de l'édition indépendante. D'accord. Alors, je vous remercie. Ce soir, l'intention, c'est d'animer une discussion et un débat. Alors, je vais tout de suite céder la parole à Éric et à M. Chiffrin en vous encourageant à réagir par la suite et à poser vos questions. Merci.
Bonsoir à tous. Merci d'être venus en si grand nombre. Je suis enchanté de vous voir ici réunis pour accueillir André Chiffrin, donc, qui est entre autres éditeur de la maison de New Press et aussi auteur, entre autres à La Fabrique, de l'édition sans éditeur, du contrôle de la parole et de l'argent et les mots, qui sont trois bouquins qui tracent des portraits, en fait, disons, plutôt sombres de l'état des lieux de l'édition et des médias en général dans le monde, sans oublier celui de la librairie. Mais ce portrait, heureusement, n'est jamais tout à fait désespérant, puisque M. Chiffrin laisse sans cesse entrevoir des solutions et des réussites aussi pour lutter contre les fossoyeurs de l'indépendance intellectuelle, si on peut les appeler ainsi. Alors, bienvenue ce soir à vous, M. Chiffrin. Et pour lancer cette discussion, à laquelle discussion que je n'ai pas l'intention d'animer seul ce soir, je compte donc vraiment sur la présence de vous tous pour poser des questions. Vous n'avez qu'à lever le doigt si jamais il y a quoi que ce soit que vous voulez demander. L'émission est enregistrée par Radio Spirale aussi, sera diffusée ultérieurement, et je n'aurai qu'à tendre le micro vers vous si vous avez envie de prendre la parole. Et si vous êtes bien sûr tout à fait bienvenue, il y a plein de gens éclairés ici, donc si vous avez des questions à poser quant à la spécificité de l'état des lieux du livre au Québec, ça va nous faire vraiment plaisir d'essayer de trouver des éléments de réponse à tout le moins. Donc, j'aimerais pour commencer tout simplement que vous nous parliez de votre parcours d'homme du livre, de vos constats et pourquoi pas de notre avenir radieux.
Merci. Enfin, je suis ravi d'être parmi vous et je m'attendais vraiment pas à tellement de gens. Et je suis heureux de voir que l'édition indépendante doit avoir comme ça tout le monde ici et peut-être quelques autres qui n'ont rien à faire avec l'édition ou la librairie, mais en tout cas, tous des lecteurs qui suivent ce qui se passe. Et je voudrais vous parler un peu de ce qui se passe dans des pays différents. Parce que l'intérêt de ce sujet, c'est que l'édition est vraiment un microcosme des changements que nous voyons dans la société que nous connaissons, et que ça soit en Amérique, en Europe, au Canada, comme on a dit, il y a les mêmes tendances, les mêmes changements ont eu lieu, et une question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut, sinon arrêter les changements, au moins améliorer la situation que je vais décrire, qui n'est pas tout à fait heureuse. Mais j'espère, comme on vient de dire, que nous pouvons avoir une conversation, parce que je suis très curieux de savoir ce que vous pensez, ce qu'on fait au Québec, ce qu'on fait au Canada. Ça vous semblera peut-être assez curieux, mais quand j'étais tout jeune, quand j'étais étudiant, le Canada était pour nous, à gauche, en Amérique, le modèle. Ce qu'on appelait dans le temps le CCF était pour nous le modèle pour l'Amérique du Nord, ce qu'on espérait faire aux États-Unis. On n'a jamais réussi à le faire. Mais c'était quelque chose qu'on admirait énormément, le progrès qu'on avait pu faire au Canada, le fait que vous avez vraiment, même si c'était qu'au Saskatchewan, que vous avez un gouvernement qui avait vraiment fait les changements qu'on avait vus en Europe et qu'on espérait faire aux États-Unis. Et donc, depuis ces années-là, ça fait plus de 50 ans, j'ai toujours admiré ce qu'on avait essayé de faire ici, et je suis très curieux de savoir ce que vous pouvez encore espérer de faire. C'est pas si facile que ça. Le nouveau livre, L'argent et les mots, parle non seulement de l'édition, mais aussi de la presse, du cinéma, et naturellement de la librairie. Et je sais que actuellement vous avez à Montréal des situations très dramatiques avec Québécois, avec le changement dans la presse actuelle, des expériences qu'on a un peu tenté de faire aux États-Unis. Mais je suis très curieux de savoir ce que vous pensez sera possible ici. Enfin, ayant dit ça, j'arrive cet après-midi de New York et la semaine précédente de Paris, où nous vivons maintenant la moitié de l'année, donc je vais parler de ce qui se passe dans les deux pays. Et je vais aussi, même si ça vous semble être l'histoire ancienne, de vous parler des changements qui ont eu lieu depuis les 50 ans où je travaille dans l'édition. Et si on ajoute le travail de mon père, ça fait presque un centenaire, mais je vais pas exagérer l'histoire ancienne. Mais les changements qui ont eu lieu depuis le début de mes années sont assez remarquables et assez souvent assez décourageants. Mais ça montre, comme je dis, les tendances que nous voyons dans tous nos pays. Et c'est une question où ce qui était dans le temps un métier d'être éditeur, c'était vraiment comme si on était un avocat ou un médecin. Et maintenant, c'est ce qu'on appelle une industrie. Et on appelle même, pour beaucoup des éditeurs américains, une industrie de loisirs, de divertissement. C'est-à-dire que les gens comme Murdoch et d'autres qui ont et de la télévision et des journaux et des maisons d'édition veulent réunir tout ça dans la même industrie de divertissement où, comme ça, on a un livre qui est axé sur une série de télévision ou sur ce qu'on veut du people, comme on dit en France, mais qui n'a rien à faire avec ce qu'on pensait de l'édition dans le temps, pardon. J'étais à Londres l'autre jour en présentant ce livre en anglais, et il y avait quelqu'un là de HarperCollins à Londres qui me disait, que, naturellement officieusement, que le problème pour eux, c'était qu'ils n'avaient plus assez de people. Alors, on offrait des avaloirs de millions de livres à des gens qui n'étaient pas si connus que ça, mais en espérant qu'ils pourraient faire la réussite qu'avait espéré M. Murdoch au début, et ils n'en étaient pas trop sûrs. C'est devenu une situation assez différente de celle que j'ai connue au début de mes années, parce que j'ai eu la chance de commencer dans l'édition dans les années 60, où c'était encore assez vieux jeu, n'est-ce pas? Si vous avez lu les éditions perdues de Balzac, c'est plus ou moins ce qu'on avait, avec la malhonnêteté dont il parle aussi. Mais le fait était qu'on était là pour trouver des bons livres, des bons auteurs, et les éditer, et de se servir de l'argent qu'on faisait pour subventionner les livres qui seraient difficiles et qui prendraient du temps. Et qui sont encore ici dans ces rayons. Donc j'ai eu la chance, étant tout jeune, dans mes vingtaines d'années, de travailler dans un grand groupe où la maison Panthéon que je dirigeais venait d'être achetée, mais par des gens qui étaient des vrais éditeurs et qui m'ont dit simplement « trouve les meilleurs livres que tu peux ». Et on verra si tu gagnes de l'argent ou non, mais l'essentiel c'était de trouver la nouvelle génération. Et en Amérique, à cette époque, c'était à la fin des années de McCarthy. Et on parle du dégel en Russie, mais on parle pas du dégel en Amérique. Aux États-Unis, en tout cas. Et je crois que le Canada n'a pas souffert autant que nous, ou n'a peut-être pas souffert du tout de ces années de guerre froide. Mais certainement, ça a eu un effet énorme sur la vie intellectuelle américaine, où la plupart des auteurs qui avaient quelque chose à dire n'osaient pas le dire. Il y avait des gens comme Dashiell Hammett qui étaient mis en prison. C'est étonnant de penser qu'un écrivain de ce genre aurait été mis en prison parce qu'il refusait de dénoncer des gens qui auraient pu être communistes, qui ne voulaient pas être traîtres à les amitiés qu'il avait fait, et avec l'excuse, vraiment, quand on y pense maintenant, c'est incroyable, que le gouvernement a acheté ses livres pour les bibliothèques à l'étranger, et donc il aurait pu se servir de l'argent du contribuable pour aider les communistes. Et c'était avec cette excuse tout à fait farfelue qu'on lui a posé des questions qu'il a refusé de répondre et qu'il a fini en prison. C'était pas pour tout le monde des cas aussi graves que ça, mais c'était une époque de peur. On appelait mes collègues, pendant que nous étions étudiants, la génération silencieuse. Et je disais à l'époque, on aurait dû nous nommer la génération silencée. Parce que les professeurs aux universités n'osaient vraiment pas parler de beaucoup, beaucoup de sujets. Donc, quand j'ai commencé à éditer, j'ai découvert qu'il y avait des gens comme Chomsky qui avaient des choses à dire, on a pu les éditer dans une époque qui était vraiment pas du tout habituée à ça. Et c'est la même chose, mettons, j'étais dans une librairie à Paris où j'ai commencé à lire un livre d'un monsieur Foucault que je connaissais pas du tout, mais qui me semblait intéressant. Et on a dit très bien, l'histoire de la folie, on va essayer de l'éditer en Amérique. Et on a perdu l'argent avec Foucault pour une bonne décennie, il faut dire. Mais maintenant, si j'avais le même âge dans une maison d'édition, il y aurait aucune possibilité de faire ça. Parce que les commerciaux qui décident ce qu'on va éditer nous auraient dit, mais ces auteurs-là, qu'est-ce qu'ils ont vendu avec leur livre précédent? Chomsky, ça aurait été un livre sur la linguistique qui a sans doute vendu 300 exemplaires. Il n'y aurait eu aucune possibilité d'éditer un livre par un auteur de ce genre. Et donc, c'est important parce que ce n'est même pas une censure politique, c'est une censure commerciale qui est établie dans les structures des maisons d'édition et dans les autres médias, il faut dire, où on vous dit immédiatement, est-ce que cette idée va être rentable ? Et naturellement, une nouvelle idée n'a aucune preuve de rentabilité au début. D'habitude, elle ne serait pas rentable. C'est une censure donc qui empêche c'est un masque de fer qu'on met sur l'édition qui empêche très simplement des nouvelles idées d'atteindre un public. Parce que si la seule question c'est quelles sont les ventes assurées, on peut pas, on ment toujours naturellement, mais éventuellement on vous dit, mais voici, vous avez menti pour 4 livres, vous n'allez pas le faire le 5e. Et je parle très souvent avec des jeunes qui cherchent des postes chez nous et qui me disent qu'ils ont, dans l'édition, on a une feuille de perte et de gain sur chaque livre. Maintenant, il y en a un sur chaque personne. Donc, un jeune éditeur saura que sa carrière sera décidée par l'argent qu'il a gagné dès le début. Et il s'agit d'une manière très efficace. On n'a pas besoin de parti communiste, stalinienne, pour vous empêcher de penser. On peut le faire dans un système capitaliste d'une manière aussi efficace. Et on voit donc, si on regarde ce qui est édité dans les grandes maisons américaines, anglaises, on commence même en France, on voit un changement énorme dans les dernières décennies. J'ai fait une étude pour l'édition anglophone de l'édition sans éditeur où j'ai regardé les catalogues des grandes maisons américaines pour chaque décennie, 1950, 60, etc., jusqu'à nos jours. Et quand on regarde, mettons, HarperCollins, la maison de Monsieur Murdoch, en 1950, on a l'impression d'une très bonne presse universitaire. C'est-à-dire quelqu'un qui était prêt à publier des livres en philosophie, en histoire de la religion, en sciences, histoire d'art, etc. Tous les sujets qui ont disparu maintenant, non seulement de leur catalogue, mais du catalogue des autres grandes maisons. Et très souvent, les gens me disent, mais on entre dans une librairie, il y a plus de livres qu'on peut lire, pourquoi vous plaignez-vous ? De quoi est-ce que vous vous plaignez ? Qu'est-ce qui a disparu ? Et le problème, naturellement, c'est qu'un chien qui n'aboie pas, on ne l'entend pas. Et les livres qui ne sont plus là, on oublie qu'ils étaient là. Et on oublie que les éditeurs étaient prêts à faire partout une découverte et de prendre les risques. Mon éditeur allemand, qui est un grand un biographe de Kafka se souvient que le premier livre de Kafka a vendu 500 exemplaires, le premier de Brecht en a vendu 800. J'ai découvert l'autre jour que le premier livre de Beckett a vendu 3 exemplaires. Mais là, je crois que la diffusion n'était pas celle qu'elle aurait dû être. Mais après tout, après ça, il a vendu dans les centaines, n'est-ce pas? La plupart des grands auteurs qu'on pense maintenant comme des classiques n'ont pas vendu au début et très souvent n'auront jamais vendu. Parce que l'idée que quelque chose de bon va automatiquement vendre des exemplaires n'est pas assurée du tout. Donc il fallait le système qui existait dans le temps, dans l'édition, c'est-à-dire que les livres qui se vendaient subventionnaient les livres qui ne se vendaient pas. Et le résultat, dans tous les pays, c'était un métier qui payait des salaires raisonnables, c'était plus ou moins celle qu'on payait à l'université, et qui avait une rentabilité dans tous les pays de 3 à 4% par an. Et je parle de ça dans l'édition sans éditeur, c'est ça l'histoire qu'on suit partout, que ce soit en France, en Amérique, en Angleterre, etc. Tout a donc changé énormément quand les grands groupes de médias ont commencé à acheter des maisons d'édition. Ce sont des gens qui gagnaient beaucoup d'argent, que ce soit dans les journaux, dans la télévision, dans les gens qui ont acheté Random House quand j'y étais, c'était Condé Nast, les gens qui faisaient Vogue, etc. Et ils ont dit, nous, mais on gagne 20-25% par an, on peut pas se permettre d'avoir des maisons d'édition qui ne gagnent 3 ou 4%, il faut faire un petit effort, n'est-ce pas? Alors leur solution, naturellement, c'était d'arrêter de publier les livres qui n'allaient pas se vendre, de ne publier que des livres qui allaient se vendre. Et naturellement, c'est une formule qui ne marche pas toujours très bien. Et dans notre cas, à Random House, après un an de ce nouveau régime, ils ont perdu plus d'argent qu'ils n'avaient perdu dans toute l'histoire de la boîte, parce que naturellement, ce genre de destruction ne marche pas. Mais n'empêche, c'est l'idéologie, et c'est une idéologie, il faut pas oublier ça, que chaque livre doit être rentable, et a gagné vraiment la contrôle de la plupart de l'édition. Et même dans les bonnes maisons françaises qui appartiennent aux grands groupes, comme Hachette ou maintenant Planète, on voit le changement du catalogue, on voit les livres qui ne vont plus paraître, et qui commencent à paraître parmi les petits éditeurs. Et c'est pour ça que d'avoir un 15e anniversaire est si remarquable, parce que ça soit ici ou en France ou aux États-Unis, les petits éditeurs indépendants ont pris la relève, ils commencent à publier les livres que les autres ont décidé qu'ils ne vont plus publier. Mais il faut pas dire donc « tout va très bien, Madame la Marquise, les petits vont refaire ce que faisaient les grands ». Dans tous les pays, au maximum, c'est les petites maisons indépendantes ont 1% des ventes. En Amérique, il y a une centaine de presses universitaires qui ont réuni 2%. Ils n'ont pas l'accès aux grandes chaînes de libraires, ils n'ont pas les livres qui vont se vendre aussi bien. Et naturellement, c'est pour la plupart, les gens qui dirigent ces maisons le font un sacrifice personnel très important. Il y a des maisons en France où tout le monde gagne le SMIC, et c'est déjà mieux que dans d'autres où les gens, les directeurs comme La Fabrique ne se payent pas un centime. Donc une des choses que je discute dans l'argent et les mots, c'est de voir quelles sont les structures possibles qu'on pourrait faire pour aider les petites maisons indépendantes. Il y a des budgets énormes pour la culture en France, comme ici, mais l'argent va naturellement pour la plupart aux grandes boîtes qui font les demandes le plus souvent. Et il faut donc regarder ce qu'on fait et voir si on peut changer ça et assurer la continuité d'une production culturelle indépendante. Mais quand je dis ça, je ne veux pas parler simplement des romans difficiles ou de la philosophie, important que ça puisse être, ou de la poésie. Je parle aussi du débat essentiel qui doit avoir lieu dans toutes les démocraties. Et ça, c'est un problème qui est analogue et qui fait partie de ce dont je parle dans ces bouquins, parce qu'on voit aux États-Unis, naturellement, ça a été encore plus frappant dans les années récentes. Après le 11 septembre, il y a eu un petit livre de Chomsky qui a été publié par une petite maison indépendante, Seven Stories, qui a vendu immédiatement 300 000 exemplaires. Donc, il y avait un public qui s'inquiétait sur ce qu'on faisait après le 11 septembre, qui n'était pas persuadé par la politique de Bush, etc., et qui voulait une pensée alternative. Malgré ça, aucune des grandes maisons a publié un livre critique sur la guerre d'Irak pour 2 ans, 3 ans, en attendant que l'opinion publique commence vraiment tellement à changer qu'ils ont cru qu'il fallait le faire. Mais ça montre l'importance d'avoir un débat que nous n'avons pas eu. Au début, même avant de l'invasion de l'Afghanistan, Condoleezza Rice a convoqué chez elle les chefs de toutes les chaînes de télévision américaines et leur a dit « Je ne veux pas voir de civils blessés sur vos écrans ». Parce que le gouvernement n'était pas bête, il se souvenait que c'est comme ça que la guerre de Vietnam a fini, que les Américains ont commencé à voir ce qu'on faisait, ils ont commencé à en avoir honte et vouloir s'arrêter ça. Et il fallait donc empêcher ces images, ces idées d'être répandues. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous regardez les chaînes télévisées américaines, vous n'allez pas voir de blessés civils, qu'ils soient en Amérique, en Irak ou en Afghanistan. Donc cette censure qui était pas formelle, mais qui était efficace, continue de travailler. Et on voit en France également le même problème où 2/3 de la presse appartient à des fabricants d'armement, que ce soit Dassault ou que ce soit Hachette-Lagardère. Ce sont des gens que, comme Bayrou a dit dans des élections récentes, n'ont qu'un client. Et ça, c'est le gouvernement. Vous n'allez pas, vous, acheter un Mirage, même si vous voulez le faire. Donc, même si ces groupes n'étaient pas déjà réactionnaires, comme ils le sont, en tout cas, mais même s'ils ne l'étaient pas, ils vont pas fâcher Sarkozy et les autres. Et actuellement, à Paris, je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe, mais un des plus grands journaux, le Parisien, va être vendu, et Sarkozy a demandé à Dassault de l'acheter. Tout simplement. Et on voit, si on regarde le Figaro chaque jour, comme je le fais quand je suis à Paris, on voit des consignes chaque jour qui ressemblent il y a un coup de téléphone de l'Élysée au rédacteur du Figaro chaque jour, et ça ressemble vraiment aux consignes que donnait le gouvernement de Vichy aux journaux, disant la une doit dire les choses suivantes. Et pendant les grèves, c'était toujours on en a assez, ça ne marche plus, il n'y a plus de soutien, etc. Chaque jour, le Figaro disait la même chose. Et les semaines précédentes, c'était l'affaire Worth n'existe pas, c'est un scandale artificiel, etc., etc. Donc c'était une presse qui était tout à fait contrôlée et qui disait exactement ce qu'aurait voulu le gouvernement. Donc la question dont je parle un peu dans l'argent et les mots, c'est est-ce que c'est vraiment un modèle qu'il faut garder? Nous avons en Amérique une situation où tous les journalistes que je connaisse, et également en France, se demandent simplement est-ce que leur journal va durer jusqu'à leur retraite, parce qu'autrement c'est un animal en voie de disparition. En 2008, il y a eu 16 000 journalistes qui ont été limogés dans un an. Au début de 2009, il y avait 10 000 simplement pour les premiers 6 mois. On n'a pas de chiffres depuis. Donc la plupart des journaux sont dans une situation où ils sont mis en danger, en partie parce que l'Internet, naturellement, a pris la publicité sur laquelle ils vivaient. Et ce n'est plus, pour des années, Wall Street et les actionnaires exigeaient 26% d'années par an de rentabilité des journaux. Et il y a 2-3 ans, un des groupes a eu le malheur de ne gagner que 19,4, et on a décidé immédiatement de le vendre. Naturellement, c'était des sommes faramineuses qui sont tout à fait irréelles, mais c'était n'empêche ça auquel les actionnaires s'attendaient, et ils étaient prêts de fermer les journaux s'ils n'allaient pas gagner autant. Donc la question dont je parle dans ce dernier bouquin, c'est simplement pourquoi est-ce qu'on accepte l'idée que les journaux doivent vivre de la publicité? On a l'impression, que ce soit à la radio, la télé ou dans les journaux, que s'il y a de la pub, c'est gratuit. Mais au contraire, la publicité est tout simplement un impôt privé que vous payez chaque fois que vous achetez quelque chose, n'est-ce pas? Si vous achetez une boîte de savon, vous payez pour la publicité qui vous a persuadé d'acheter cette boîte de savon. Et les gens qui font de la publicité veulent persuader tout le monde que non, c'est grâce à eux que les objets sont moins chers, ils sont devenus des objets de masse, etc. Mais on n'a qu'à rentrer dans n'importe quel supermarché et on voit que les seuls produits qui ne sont pas aussi chers que les autres sont ceux qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de marque. Et ils sont moins chers précisément parce qu'il n'y a pas eu de publicité. Et ça, on n'a qu'à le voir. Donc la question que je pose, c'est est-ce qu'on veut vraiment continuer de payer pour les médias avec un impôt privé? Ou y a-t-il d'autres possibilités? Les possibilités qu'on a vues dans la BBC, dans la CBC et d'autres, où il y a un impôt qui est précis sur un objet que vous achetez, mais qui va indépendamment aux médias pour payer ce qu'ils ont besoin de faire. Et une des idées que je soulève, c'est que comme Google se sert de la presse tout le temps, la plupart des gens lisent maintenant les manchettes sur leur Internet, pourquoi ne devraient-ils pas, eux, payer un impôt? Ils ont gagné, eux, au-delà de 25% l'année dernière, et des milliards de dollars. Pourquoi ne pas proposer un impôt sur tous les internets pour essayer de payer pour une presse indépendante dont on a besoin? Parce que si on continue comme nous le faisons actuellement, il y aura encore des journaux pour quelques années, mais ils n'auront plus de rapporteurs, ils n'auront plus des grands journaux américains comme le Baltimore Sun ont fermé tous les bureaux qu'ils ont à l'étranger. Et aussi important, on ferme maintenant des bureaux dans les États, pour les gouverneurs, ce qu'on fait dans chaque des États, qui est un endroit où la corruption est très importante et où la presse est vraiment le seul pouvoir possible pour critiquer ce qui se passe. Et je ne sais pas à quel point c'est le cas ici, mais certainement l'idée d'une presse indépendante n'est pas simplement un slogan qui date du XVIIIe siècle, c'est une actualité que, et comme j'ai dit avec l'Irak, on voit ce qui se passe quand il n'y a plus une presse indépendante. Parce que là, alors, il n'y a plus de contrôle du tout sur ce que les gouvernements veulent faire. Et le mensonge continuel est naturellement une des choses que chaque gouvernement essaye de faire. Donc, ce n'est pas simplement l'édition de livres, bien que le livre est essentiel dans tout ça. Parce que c'est seulement là où on peut avoir le temps d'étudier quelque chose, d'écrire longuement, d'écrire les détails. Et naturellement, c'est un des rôles de la presse, c'est de vous dire ce qu'il y a eu dans les livres, quelque chose qui devient de plus en plus rare. Parce que la moitié des suppléments littéraires en Amérique ont fermé leurs portes dans les années récentes. Grâce aux grandes chaînes de libraires, naturellement, qui exigent, eux, des pots de vin qui sont si chers qu'il n'y a plus de l'argent pour faire de la pub dans la presse qui existait auparavant. Donc je crois qu'enfin, vous avez encore la chance à Montréal d'avoir des librairies indépendantes telles que celle-ci. Quand j'étais jeune et j'avais besoin de travailler après l'école pour gagner quelques sous, je travaillais dans une librairie à New York qui était une de 330 librairies d'après-guerre. Nous avons maintenant moins de 30, y compris les chaînes. Et il y a deux raisons pour ça. Naturellement, une raison, c'est qu'il n'y a aucun contrôle de loyer, et donc ça devient de plus en plus cher d'avoir une librairie, quand on n'a pas la chance d'avoir acheté une maison dans laquelle ça se trouve. Et aussi, il n'y a pas de prix fixe, il n'y a pas de loi langue en Amérique, et donc les libraires peuvent perdre tout l'argent pour les best-sellers qui seront vendus moins cher par quelqu'un d'autre. Alors pour des années, Barnes & Noble a pu éliminer les indépendants en vendant les best-sellers à 30%, et puis tout d'un coup ils ont découvert qu'il y a toujours quelqu'un qui peut vous faire ce que vous avez fait aux autres. Et que tiens, maintenant les Costco et les autres qui vendaient des livres pour faire rentrer des clients, en Angleterre les grandes surfaces vendaient des Harry Potter pour une livre au lieu de 20 livres. Et donc les libraires perdaient l'argent dont ils avaient besoin pour naturellement payer le loyer. Et donc ça, je parle de ça en partie parce que ça montre à quel point les règlements gouvernementaux sont essentiels dans toutes ces questions. Ce sont des décisions du gouvernement. C'est une décision de permettre un monopole. Mettons, en Amérique, il y avait d'antan un règlement qu'on ne pouvait pas avoir un journal et un poste de télévision dans la même ville. Une question qui n'est pas sans intérêt pour Montréal, n'est-ce pas? Dans tous les pays, les lois existent, mais on n'en fait rien. Et également, la loi sur le prix fixe du livre fait une différence énorme. Il y a quelques années, j'ai demandé au ministre de la Culture allemande, Neumann, qui était anciennement un éditeur lui-même, qu'est-ce qui se passerait si la loi langue n'existait plus en Allemagne, où il y a 8000 libraires. C'est étonnant. Et il m'a dit, on en perdrait la moitié d'un jour à l'autre. Donc, toutes ces questions sont des questions très importantes du point de vue politique. Et ce que fait le gouvernement, que ce soit gouvernement national ou régional, est très important. Et un des exemples que je donne en France, c'est que même si on a un gouvernement réactionnaire à Paris, on peut avoir des gouvernements régionaux, comme vous les avez ici, qui peuvent être indépendants, qui peuvent faire des décisions différentes. Il y a des villes en France, mettons, où la municipalité a décidé soit de subventionner le loyer d'une librairie en centre-ville, ou même, dans un cas, de donner une vieille école désaffectée à un éditeur qui a permis l'éditeur de poésie le plus important en France de survivre et de faire un catalogue formidable qui, après 30 ans maintenant, commence à s'équilibrer, mais qui n'aurait jamais pu faire ça sans l'existence de cette ville, Chambon-sur-Lignon, qui était prêt à leur donner cette vieille école dont personne n'avait besoin, mais qui a tout à fait changé pour toute la France, n'est-ce pas, ce qu'on pouvait lire, ce qu'il y avait dans le monde de l'édition. Donc, dans le mot « l'argent et les mots », je parle des exemples très concrets de ce qu'on a pu faire dans des pays différents pour changer ce qui se passerait autrement. Mettons en Norvège, qui est un pays qui a décidé il y a très très longtemps d'avoir une politique indépendante et de sauvegarder sa langue qui était en danger, comme au Québec, ils ont, mettons, et tout le monde me dit « Ah, mais la Norvège, c'est le pétrole, ils ont de l'argent, etc. » Ça ne vient pas du tout de l'argent du pétrole qui est ségrégué dans des fonds spéciaux. C'était en 1913 que les Norvégiens ont décidé de municipaliser tous les cinémas, par exemple, pour assurer au public norvégien qu'il pourrait voir les films qu'il voulait, pas seulement les grands films américains. Et à l'époque, les journaux de Hollywood parlaient des bolcheviks norvégiens et la menace communiste à Oslo, etc., etc. Mais n'empêche, ils ont pu maintenir dans le cinéma une indépendance et plus tard dans l'édition également, où le gouvernement actuellement achète maintenant 1500, 1300 exemplaires de chaque nouveau livre en littérature, en essai, etc. Et les donne à toutes les bibliothèques du pays, dont beaucoup sont dans des provinces au nord, isolées, etc., mais qui assurent donc, pour pas beaucoup d'argent, qu'il y a les auteurs norvégiens, les éditeurs norvégiens, les libraires norvégiens peuvent continuer à avoir une vie culturelle indépendante et qui ne seront pas repris, comme est le cas dans beaucoup d'autres pays, par des grands groupes voisins. On ne pense pas de la Suède comme pays impérial, etc., mais ils ont acheté des journaux en Norvège et dans les pays baltes, etc. Dans chaque pays, quelle que soit la taille, il y a le même phénomène. Et c'est une des raisons de... L'édition sans éditeur, maintenant, a eu 28 éditions dans des pays différents, pas parce que c'est un chef-d'œuvre, mais parce que les problèmes existent dans chacun de ces pays. Et quand je visite, que ce soit, mettons, la Corée du Sud, où on me dit quel sera l'effet du club de livres Bertelsmann quand il arrive en Corée, on voit à quel point c'est une situation tout à fait globalisée où les mêmes problèmes existent dans tous les pays, que ce soit la Chine, la Russie, le Japon, sans parler de tous les pays européens. Le même phénomène existe parce que nous parlons précisément de la globalisation, qui veut dire qu'on va chercher, comme on a fait au Canada depuis longtemps, n'est-ce pas, on va essayer d'acheter autant des maisons d'édition que possible, d'empêcher une culture indépendante d'exister et d'offrir à tout le monde les mêmes choses au même prix et avec la même rentabilité. Enfin, je dis pas au même prix parce que je vois les prix des livres français au Canada et je me demande vraiment comment ils peuvent se permettre de tellement augmenter le prix des livres, qui est le même phénomène, entre parenthèses, qu'on voit en Amérique latine, où les éditeurs espagnols contrôlent le marché de toute l'Amérique latine, et ils sont beaucoup plus heureux de vendre 500 exemplaires d'un livre au triple du prix que de permettre à un éditeur régional de publier pour un prix raisonnable. Donc on a le même, c'est un reflet colonialiste tout à fait classique, n'est-ce pas? Les choses n'ont pas tellement changé pendant 200 ans à cet égard, mais le problème se retrouve en voyageant pour visiter ces pays différents, on retrouve exactement les mêmes questions. Et la question, naturellement, que je vous pose, c'est que peut-on faire dans un pays qui est minoritaire, enfin, envers les États-Unis, et avec une langue minoritaire? C'est un problème dont j'ai parlé à Genève, mettons, et dans d'autres pays, où il y a les mêmes problèmes que vous avez ici. Mais c'est une question de courage politique, de courage civique, comme on disait dans le temps, de qu'est-ce qu'on va faire, comment peut-on adresser ces questions, et en attendant, je vous les adresse. Alors, je suis très curieux de non seulement si vous avez des questions, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, mais aussi je voudrais savoir ce que vous pensez qu'on puisse faire ici, ou qu'on va faire, ou qu'on aurait dû faire, etc.
On a quelques églises, peut-être qu'on pourrait suivre l'exemple de l'école désaffectée et de l'idée dédiée à la culture au Québec.
Très bonne idée, oui.
Marie-Ève. Je voudrais savoir, est-ce que, parce que... Pardon. Au Québec et au Canada, donc, les éditeurs sont subventionnés. Ce qui n'est pas le cas dans plusieurs endroits. Donc, on est subventionné par le Conseil des arts, mais aussi, il y a deux paliers de gouvernement, hein, le fédéral, le provincial. Évidemment, si ces subventions n'étaient pas là, le quelques peu d'éditeurs indépendants qui restent au Québec, surtout avec le marché québécois qui est si petit, je pense qu'il disparaîtrait ou presque, dont nous, dont Lux. Mais comment donc, si même en subventionnant ces milieux-là, le milieu reste fragile quand même, parce que même avec ces subventions-là, on doit lutter chaque jour pour chaque livre qu'on fait, chaque choix éditorial, faut mesurer justement, pas au niveau de la rentabilité, est-ce qu'il est vendable ou non, mais est-ce qu'on va payer pour chaque vente qu'on fait finalement, tu sais, c'est le choix aussi qu'on doit faire. Donc dans une situation ici comme au Québec, est-ce que vous avez vu ailleurs d'autres exemples où le milieu de l'édition est subventionné mais qui réussit et que ça règle en tout cas une partie du problème, ce qui semble pas être le cas ici? En tout cas, je pense.
Non, enfin, une des choses, n'est-ce pas, un des avantages d'être très, très vieux, c'est qu'on se souvient comment ça se marchait dans le temps, n'est-ce pas? Et en Amérique, en Angleterre, mettons, il y avait un système de bibliothèque publique qui avait des budgets pour tous les livres, et on pouvait vendre 1500 exemplaires de chaque nouveau titre assuré aux bibliothèques. Et ça permettait un certain équilibre, n'est-ce pas? Maintenant, ça a disparu. Depuis les années Reagan-Thatcher, ça n'existe plus. Et c'est pour ça que je cite l'exemple de la Norvège, où ils ont décidé, non, ça, on va changer, on ne va pas faire ça. Je parle dans le livre de l'exemple du cinéma français, mettons, où ils ont établi en 46 un impôt sur les billets de cinéma, qui sont pour la plupart des films américains, qui est versé dans une caisse contrôlée par l'industrie du cinéma et qui permet aux producteurs français d'avoir 280 millions d'euros chaque année pour faire leur propre film. Et qui permet aussi d'avoir 10 millions par an pour avoir les cinémas d'art et essai que vous connaissez sans doute. Il y en a 1000 en France où on montre des films qui sont très souvent des films genre cinémathèque, n'est-ce pas, mais qui ne sont pas seulement les derniers blockbusters de Hollywood. Ça, c'est quelque chose qu'une province peut faire, qu'une ville peut faire. On peut mettre un impôt de quelques centimes sur chaque billet de cinéma pour avoir ce que vous n'avez très peu ici à Montréal, de cinéma d'art et d'essai. On peut faire la même chose, comme je dis avant, avec que ce soit les journaux, que ce soit les livres. Ce sont des décisions politiques, n'est-ce pas? Mais le mécanisme est très simple. On peut suivre ce qu'on a fait dans d'autres pays. Et on peut, vous dites, utiliser les églises. On peut même utiliser les universités, n'est-ce pas? Il y a plusieurs universités en Amérique, en France, qui ont prêté leurs locaux à des professeurs qui ont commencé des maisons d'édition. Pas des maisons d'édition universitaires, mais des vraies maisons d'édition qui font des traductions, qui font des livres qu'on ne trouve plus dans le marché, etc. Et en France, la collection Raison d'agir, qui a été commencée par Bourdieu, est le meilleur exemple. Je me souviens, quand j'étais en France, j'allais chaque année visiter les éditeurs et tout le monde me disait « Oh, il n'y a plus de public pour les livres politiques, les jeunes gens s'y intéressent plus, ça n'existe plus, etc. etc. » Et Bourdieu, qui a fait des études sur le champ intellectuel, qui lui montrait que ce n'était pas le cas, a décidé de commencer dans son bureau, avec sa secrétaire au Collège de France, une collection qui s'appelait « Raison d'agir ». Je ne sais pas si vous connaissez des livres qu'ils ont publiés, y compris les siennes. Il y a eu, dans les deux années suivantes, des bouquins qui se vendaient à 300 000 exemplaires pour un public qui n'existait pas. Enfin, donc, il a pu montrer, n'est-ce pas, qu'on pouvait se servir. Je suis sûr que la Sorbonne ne savait pas qu'on se servait de ses bureaux pour ça, n'est-ce pas? Mais il a pu montrer qu'après tout, l'édition, c'est artisanal, n'est-ce pas? On peut faire ça avec quelques personnes. On n'a pas besoin de grands capitaux, on a besoin de diffusion, certainement. Mais on peut, avec un budget très, très restreint, refaire ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Et une des choses qui est très encourageante, et naturellement mes collègues ici travaillent avec eux, c'est qu'il y a une floraison de petites maisons en France, que ce soit à Gone ou Amsterdam ou Prairie Ordinaire, des gens comme ça, qui sont presque entièrement des jeunes gens avec très peu d'argent, qui ont commencé à publier des livres qui n'existaient plus en France. Et pour la plupart, ça marche. Ça ne marche pas assez pour qu'ils puissent gagner un salaire décent, mais les livres se vendent. Et comme je dis, c'est artisanal. Avec 1500 exemplaires, on peut payer les frais d'un bouquin. Donc, il y a deux aspects, je crois, importants. Une, c'est l'idée, la grande victoire des néolibéraux, c'est de persuader tout le monde que c'est inévitable. N'est-ce pas? La globalisation, la concentration, n'y pensez plus, ça va avoir lieu, que vous êtes pour ou contre, n'est-ce pas? Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas inévitable. On peut faire des choix. On peut faire des autres modèles. Nous avons fait ça à New York avec la New Press il y a une vingtaine d'années, en quittant le groupe Random qui voulait qu'on change entièrement ce qu'on publiait. On a commencé une maison à but non lucratif qui maintenant, ça fait une vingtaine d'années, ça fait 1000 bouquins à peu près que nous avons édités, dont je dirais au moins 990 n'auraient été pas pris par une grande maison. Et parmi ces livres, il y a des livres qui ont vendu des millions d'exemplaires. Pas beaucoup, mais il y en a eu. Parce qu'on était prêt à prendre des risques, à faire des choses que les autres ne voulaient plus faire, et de tenter de refaire l'édition telle qu'elle était avant. Donc ces choses sont possibles. Et votre blague à vous sur les églises n'est pas une mauvaise idée. Pas que je suis contre les églises désaffectées, mais il y a beaucoup d'institutions, il y a beaucoup d'immeubles dans tous nos pays qu'on pourrait utiliser pour reconstruire ce monde qui commence, qui est en voie de disparition. Une question, Alex?
Pour nous ici, c'est un peu difficile à concevoir. Enfin, peut-être que quelqu'un me corrigera, mais j'aimerais savoir comment ça fonctionne, une maison d'édition sans but lucratif.
Oui, très bien. Enfin, les lois sont différentes d'un pays à l'autre, naturellement. Et en Amérique, c'est une structure qui est assez répandue, en partie parce qu'il y a les presses universitaires. Mais vous les avez aussi ici, n'est-ce pas? Alors, ce qu'on a décidé, c'était de faire une presse universitaire qui n'était pas pour un public universitaire. C'était le même modèle. Mais c'est le modèle qui existe en Amérique pour la télévision publique, pour la radio publique, etc., comme ici avec le CBC, etc. C'était un modèle qui existe dans beaucoup des aspects de la culture. Et certainement, je ne sais pas quelle est la situation ici, mais en Amérique des États-Unis, la musique, le théâtre sérieux, toutes ces choses sont à but non lucratif. On sait qu'on ne va pas gagner de l'argent en faisant ce qu'on devrait faire. Ou on arrête de le faire entièrement pour faire de l'argent. Il y a un choix très, très simple, n'est-ce pas ? On fait ou l'un ou l'autre. Alors, on avait décidé d'essayer de faire ça. On a eu le grand avantage, c'est que quand nous avons quitté le grand groupe de Random, presque tous nos auteurs nous ont suivis. Et ça, c'est une chose très importante aussi, parce qu'un auteur, comme un lecteur peut choisir où il achète son livre, un auteur peut décider qui va publier son bouquin. Mettons, il y a la petite maison dont je parlais avant, qui avait publié le petit bouquin de Chomsky, a reçu le soutien de Kurt Vonnegut, qui a quitté le groupe Bertelsmann pour leur donner ses bouquins. Et c'est grâce à Vonnegut qu'ils ont pu continuer jusqu'à nos jours. Donc c'est une question, le soutien des libraires, mais le soutien des auteurs fait une différence énorme. Alors pour nous, les auteurs les plus connus, que ce soit Marguerite Duras ou Chomsky ou Studs Terkel, etc., nous sont été tous fidèles et on a pu publier leur livre qui naturellement a pu payer les frais des autres, et on a eu un certain soutien de fondations américaines qui sont plus dans ce domaine, je ne sais pas si ça existe au Canada du tout, mais qui était suffisamment important. Mais pour nous, dans une année typique, la vente des livres paye pour 80% des frais. Et le soutien qui vient de l'extérieur est pour des livres que nous savons sont certainement déficitaires. Alors, mettons, si on continue à traduire, mettons, Echnoz et d'autres auteurs français, c'est avec un soutien et du gouvernement français et des fondations américaines qui savent qu'on ne peut pas publier un livre de littérature française sans perdre de l'argent en Amérique, ça c'est assuré. Et même si c'est un prix Nobel comme Claude Simon que nous avons édité, on vend à peine 2000 exemplaires, qui ne paye à peine pour la traduction. Mais n'empêche, on peut le faire, et si au bout de l'année, les chiffres sont équilibrés, c'est tout ce qu'il nous faut. Et là, je crois que c'est le cas pour beaucoup de journaux. Je crois qu'il y a beaucoup de journaux au Canada qui sont à but non lucratif. Le meilleur journal anglais, le Guardian, l'est également. Et je crois que une des solutions dont je parle dans le livre, c'est pour la presse, c'est certainement si on ne va plus gagner 26%. Et les actionnaires ne vont plus investir chez vous, la solution c'est de redevenir comme à but non lucratif. Et je ne sais pas si ici le journal qui est publié maintenant par l'équipe, l'ancienne équipe du journal En Grève, est à but non lucratif formellement ou non, n'est-ce pas? Mais on est très souvent déjurés, de facto sans l'être déjurés, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent sans dire qu'ils vont le faire automatiquement. Mais certainement, du point de vue juridique, on ne paye pas d'impôts, c'est beaucoup plus utile d'avoir ce statut. Et l'importance, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts, on le voit, comme je dis, en France et autre part, c'est que les gens qui veulent poursuivre leur métier ne sont pas là pour gagner énormément d'argent. S'ils étaient ça, ils deviendraient banquiers ou hedge trader, etc. On peut faire un travail honnête, se payer d'une manière décente, mais pas excessive, et continuer à ce niveau artisanal qui marche partout. En Italie, maintenant, dans les années récentes, il y a eu une centaine de petites maisons indépendantes qui ont été créées. Et là, c'est le pays où Bondadori et les autres sont des grands monopoles.
Oui, bonsoir, merci d'être venu. J'ai une question par rapport à... Vous avez mentionné très brièvement le rôle des bibliothèques dans l'organisation de la publication indépendante. Et j'aimerais savoir si vous est possible d'abord connaître vos pensées de façon un peu plus développée. Et par rapport à la perspective qu'aux États-Unis, les budgets des bibliothèques publiques ont été énormément coupés cette année. Et par rapport aussi au livre numérique qui fait son entrée de façon assez incroyable dans les bibliothèques maintenant et qui va le faire de plus en plus. Et étant donné que depuis 50 ans, vous voyez les technologies évoluer, cet aspect du rôle des bibliothèques publiques dans le soutien des maisons indépendantes par rapport à une nouvelle technologie qui est le livre numérique, quelle est votre vision de ça? Puis peut-être, sur cette réflexion des technologies, je pense, à part la maison d'édition Lux qui produit en latex, donc avec un logiciel livre, 99,9% des livres numériques qui vont rentrer en bibliothèque publique, le livre, la typographie appartient à deux compagnies, Microsoft et Adobe. Et donc, il n'y a pas juste une concentration des maisons d'édition, mais il y a aussi une concentration des supports matériels même. Donc ça, c'est le premier point au niveau de la technologie. Au Québec, un des exemples par rapport à la concentration, c'est peut-être Québecor qui rentre avec ses livres à travers Sogides, mais qui rentre de plus en plus parce qu'il impose une plateforme numérique ou parce qu'il va l'imposer. Et même les bibliothèques publiques maintenant doivent acheter des systèmes de gestion de bibliothèques publiques qui appartiennent à des grands groupes. Donc la privatisation de la lecture se fait maintenant à l'intérieur des lieux publics. J'aimerais connaître un peu plus votre pensée sur comment la bibliothèque peut sortir de cette logique-là, elle aussi, parce qu'elle est prise dans la même logique, et comment l'édition peut essayer d'encourager, l'édition indépendante peut essayer d'encourager ce mouvement des bibliothécaires ou des bibliothèques.
Non, c'est une question très importante et je vous en remercie. J'ai un chapitre, le dernier chapitre dans le livre parle précisément de ces questions. Et il y a deux questions très différentes, n'est-ce pas? Une question, c'est le tentative de Google, de Amazon et d'autres d'établir un monopole de distribution. Et là, c'est un danger énorme. La question là, c'est de comment empêcher juridiquement et dans d'autres méthodes ce monopole. Alors, je parle des écrits de Robert Darnton, que vous connaissez sans doute, qui est le professeur d'histoire à Harvard, qui est devenu le bibliothécaire de Harvard, précisément pour parler de ces questions. Et il a écrit beaucoup d'articles dans le New York Review, ça va devenir un livre. Et lui, il dit, et je suis tout à fait d'accord avec lui, qu'on ne peut pas permettre à Google et aux autres d'avoir un monopole sur la littérature nationale, sur tout ce qu'il y a dans la bibliothèque du Congrès ou sur tout ce qu'il y a dans la bibliothèque nationale française, etc. Et alors, lui, il propose qu'on entame un programme public de digitalisation des fonds nationaux. Et est-ce qu'on peut faire ça aux États-Unis aujourd'hui? Ça, c'est pas du tout sûr, naturellement. En France, ils ont décidé, même Sarkozy a décidé qu'il fallait le faire. Avant ça, Sarkozy était tout prêt pour privatiser tout ça. Et avec... je ne sais pas pourquoi, il a décidé pour une fois de faire ce qu'il fallait faire, mais ils ont fait ça, et en Allemagne, on parle également de faire la même chose. Il y a toutes sortes de procès qui ont eu lieu en Europe contre ce monopole. Et donc, d'empêcher le monopole de diffusion est essentiel, parce qu'autrement, ils pourront faire ce qu'ils veulent en question de prix, etc. Et comme, je ne sais pas si vous travaillez dans des bibliothèques universitaires, mais nous avons vu, mettons, et j'en parle dans l'édition anglophone de l'édition sans éditeur, que les bibliothèques universitaires américaines n'ont maintenant que l'argent qu'il faut pour payer les journaux scientifiques. Parce qu'il y a deux grands monopoles, et heureusement l'Union européenne a pu les empêcher de fusionner. Mais il y a des monopoles, Clouvers et d'autres maisons hollandaises, qui demandent jusqu'à 26 000 dollars par an pour un abonnement à un journal scientifique. Qui veut dire que les bibliothèques, donc, n'ont plus d'argent pour acheter des livres du tout, s'ils veulent maintenir leur rôle comme bibliothèque universitaire Alors ça, c'est encore une question importante, et là, ça devient très compliqué, mais c'est important de noter que l'Union européenne a empêché le monopole absolu qui cherchait. Et on commence à voir dans les universités des gens qui veulent faire des journaux scientifiques indépendants et gratuits sur le net. Donc ça, lisez ce que dit Darnton là-dessus, c'est beaucoup mieux que ce que je peux vous dire. Et il a une influence importante actuellement. L'autre question, simplement, c'est une question de budget. Aux États-Unis, comme vous savez sans doute, la plupart de l'argent pour les bibliothèques a été dépensé sur des ordinateurs dans les années récentes. Il n'y a plus de budget pour des nouveaux livres, sauf pour les best-sellers que tout le monde veut emprunter. Alors là, c'est simplement une question de budgétaire et politique. Quelles sont les priorités? Qu'est-ce qu'on veut exiger? Et on peut demander, comme on a fait en Norvège, qu'on achète encore des livres imprimés. C'est pas impossible. Et aussi, il faut aussi contrôler l'argent qu'on exige pour l'utilisation des livres sur un Kindle ou autre. Parce que pour le moment, ils peuvent demander ce qu'ils veulent. J'ai eu un débat à Paris il y a quelques années avec le bibliothécaire de Lyon, qui est la deuxième bibliothèque française, qui avait fait un accord avec Google pour leur donner tous les fonds. Et je leur ai dit, dites-nous, est-ce qu'il y a, dans votre accord, est-ce qu'il y a le moindre contrat qui dit qu'ils n'ont pas le droit de mettre... J'ai essayé de trouver quelque chose d'aussi impossible que possible, de mettre une publicité pour Coca-Cola sur chaque page. Ou d'exiger dans 10 ans qu'on leur paye $20 chaque fois qu'on emprunte un livre, etc. Et le bibliothécaire a dit non, on n'a fait aucune condition, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc c'est une question comme ça, en partie de contrôle gouvernemental et aussi des règlements sur les monopoles. Parce que si on leur laisse faire ce qu'ils veulent, Google gagne au-delà de 25%, comme je disais, chaque an, et le premier trimestre, ils ont gagné 32% plus que ça, ils ne vont pas donner des cadeaux aux lecteurs, aux bibliothèques, aux autres gens. Ils vont gagner autant d'argent qu'ils peuvent une fois qu'ils ont établi le monopole. Et c'est donc pour ça que c'est essentiel, en partie, d'établir une concurrence publique et aussi de contrôler les prix qu'ils peuvent exiger.
Chiffrin, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, à toute étape de fabrication du livre, les éditeurs indépendants, d'une certaine façon, travaillent à leur propre affaiblissement? Je vous explique pourquoi. Par exemple, si vous imprimez un livre, vous aurez le choix de faire appel à un imprimeur indépendant, il y en a de moins en moins, qui coûte beaucoup plus cher qu'une grande firme qui appartient à un grand réseau. Ici, il n'y en a pas d'une multitude. Vous avez encore Québécois dans vos pattes, par exemple, ou vous avez d'autres grands groupes. Vous voulez être diffusé. Vous voulez être diffusé convenablement, qui est le nerf de la guerre. Vous ferez affaire avec Hachette, vous ferez affaire avec Rizzoli, vous ferez affaire avec Québécois encore. Dans les grandes chaînes, on vous demandera de payer aussi pour vos livres indépendants ces ristournes, qui sont effectivement des pots de vin déguisés, de sorte que votre livre puisse se retrouver en vitrine, qu'il puisse être présent. J'irais même plus, par exemple, vous évoquez le cas de Chomsky, qui est un cas remarquable, bien sûr. Vous savez qu'il a beaucoup tardé à être présent dans l'univers de la francophonie, pour les raisons que l'on sait, mal compris, incompréhension sur un certain nombre de rapports. Et donc, le travail de percée de Chomsky en langue française date à peu près d'une dizaine d'années. Les gens chez Hagon en sont en partie responsables. Ils ont fait un travail de mise à jour, de recherche de textes, de traduction très très fine. Conséquence, repérage du titre, ça fonctionne. Il peut effectivement y avoir des ventes de fait avec Chomsky. Et du jour au lendemain, Chomsky est publié, les titres importants, chez Fayard, qui est propriétaire d'un grand marchand d'armes. Alors même dans la recherche, dans la marge de titres intéressants, ces titres-là sont récupérés et servent à enrichir des gens contre lesquels, en principe, l'édition indépendante lutte. Alors, est-ce que les dés ne sont pas pipés à l'avance, d'une certaine façon?
En fait, c'est une histoire assez compliquée, mais si vous voulez, on peut en parler, parce que j'ai été l'éditeur de Chomsky pour beaucoup d'années, et j'ai essayé de persuader les éditeurs français de traduire, sans résultat, pour très très longtemps. C'est très bien qu'Hagon a fait cette collection dont vous parlez, mais ce n'était pas la raison des changements. Fayard a commencé à publier Chomsky très simplement parce qu'il voulait, comme toujours le groupe Hachette, voulait être proche du gouvernement. Et quand le gouvernement était Jospin, ils ont décidé de commencer à publier Attac et Chomsky et d'autres écrivains de gauche pour plaire au gouvernement. C'est tout simplement comme ça. Et c'est pour ça qu'ils ont fini par faire cette percée qui était autrement tout à fait incompréhensible, parce que la France est le seul pays où cette mythologie de Chomsky comme négationniste a existé. Il n'y avait aucune vérité là-dedans, c'était tout à fait un coup monté dès le début. Pour vous qui n'êtes pas au courant, Forisson lui avait demandé d'écrire une lettre disant qu'il avait le droit de s'exprimer, et Chomsky a écrit une lettre traditionnelle américaine pour le premier amendement de la Constitution disant tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Et Forisson, je lui avais conseillé de pas le faire, mais il a écrit la lettre. Forisson s'est servi de cette lettre comme préface, sans la permission de Chomsky, de son livre. Et alors tout le monde en France qui voulait attaquer Chomsky pour des raisons politiques, purement politiques, ont commencé à dire « Ah, il est négationniste, on peut pas avoir affaire avec lui, etc. » Et je parle de ça dans le livre sur le contrôle de la parole comme un exemple d'une censure qui existe en France, qui n'est pas une censure commerciale, mais qui est une censure de conformité intellectuelle parisienne. Pour la même raison, mettons, que le livre de Hobsbawm que j'avais édité sur l'histoire du XXe siècle a paru dans tous les pays du monde, sauf en France, où les Français ont dit « Oh, personne ne va lire un bouquin d'un ancien communiste, n'est-ce pas ?» Et c'est seulement grâce au monde diplomatique qu'un éditeur belge, il faut dire, a publié le livre qui est devenu un best-seller en France. Donc ça, c'est un autre problème tout à fait, c'est le problème de conformité, d'assurance en France, qui est assez important, que tout le monde pense comme vous pensez, même si c'est pas le cas. Et on a vu ça, mettons, avec le centenaire de la Révolution française, le bicentenaire de la Révolution française, où toute l'historiographie a changé dans la direction de Furet, en même temps que la France a viré vers la droite à cette époque. Mais important que soit le bouquin de Dagon, et j'ai travaillé avec eux là-dessus, ce n'est pas la raison pour laquelle il a fait cette percée.
Toujours est-il qu'il est quand même publié chez un marchand d'armes avec son consentement.
Oui, mais c'est un marchand d'armes que j'ai dit qu'il voulait être copain avec le gouvernement. Alors s'il y avait brièvement un gouvernement gauche, on fait des livres de gauche.
Ça garantit d'une certaine façon la liberté de parole et de publication, mais de l'autre côté, ça coupe la chaîne aussi. Ça se passe du service des fournisseurs, des distributeurs et des libraires. Comment est-ce que vous pensez que ça va se développer? Est-ce que vous pensez que ça va donner des idées à d'autres et que ce type d'édition-là peut se développer?
Oui, enfin, il faut espérer que les méthodes alternatives vont continuer. Et en France, finalement, vous avez peut-être vu, il y a enfin 1000 libraires qui ont établi un alternatif à Amazon. Ils auraient dû faire ça il y a 10 ans, n'est-ce pas? Et ça leur a pris beaucoup de temps, mais ils le font enfin. Donc on peut maintenant acheter un livre par Internet d'un libraire indépendant, au lieu de le faire d'Amazon. Donc on peut construire des réseaux alternatifs, c'est essentiel de le faire, certainement. Pour la diffusion générale, c'est très difficile. Et comme on voit ici, avec les prix que j'ai constatés dans les libraires des livres français ici, il y a un impôt imposé par les distributeurs qu'on devrait empêcher d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment le faire. Mais les structures sont essentielles, toujours, que ce soit les structures d'édition, de diffusion, de libraires. Et il faut, et on peut encourager les alternatives, comme je viens de dire, en France, on a finalement pu faire pour l'Internet.
Mais il y a pas forcément un impôt, je pense que
Pas seulement un impôt sur le livre, je parle d'une expérience personnelle. J'ai une petite maison d'édition en France. On fait imprimer les livres en Italie parce que le papier est plus beau et moins cher. Et puis, en fait, vous savez sans doute qu'Hyperion a fait faillite il y a plus d'un an maintenant, qui regroupait plus d'une cinquantaine de petites maisons d'édition. Il a fait une course après la montre. Contre ces petites maisons d'édition en se servant d'échecs de ces 50 maisons d'édition pour payer le tribunal du commerce de Paris. Et puis, peu de maisons d'édition ont réussi à passer au temps des cerises ou à se faire prêter à un autre distributeur comme les Belles Lettres. Et puis, après ces maisons d'édition, dont la mienne, se sont retrouvés avec un choix de diffuseur prêté au Québec, donc pour le commerce et le voyage de ces livres, et on se retrouve, pour ne pas la citer, avec la Canopée ici, qui va booster et faire exploser le prix du livre en se payant en fait une marge. Et en fait, je n'ai jamais pu faire arriver une petite maison d'édition ici au Québec depuis 3 ans en fait. Simplement parce que la Canopée ferait grimper le prix du livre d'une manière quasi invendable. Alors là-dessus, on parlait de monopole, je parlerais plutôt de micro-clandestinité en disant est-ce qu'on ne pourrait pas faire passer les livres sous le manteau.
Enfin, vous avez raison, c'est un système qui a marché très souvent. Non, je crois que dans toutes ces questions, il faut regarder, et c'est à vous de le faire, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché en France. Mettons, on a fait un tentative au sein du CNL d'établir un système pour les petites maisons d'édition de réunir les commandes et les envois. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Et ça, c'est supposé beaucoup couper les prix de ça. Si on peut grouper comme ça pour les grandes maisons d'édition, on leur donne ensemble toutes les commandes qui sont venues des petites librairies et qu'ils puissent les envoyer ensemble et faire une comptabilité, etc. Et ça, ça a l'air de marcher. Mais donc, la question est simplement de trouver quelles sont les solutions pratiques coopératives qui permettent de couper les prix et si possible, de construire des alternatives au monopole de distribution. Ce n'est pas facile, mais il y a des tentatives et ça vaut le coup de regarder le rapport annuel du CNL et sur le web. Vous pouvez le lire et je crois qu'ils peuvent vous dire ce qui s'est passé là. C'est des petites maisons dans le CNL qui ont décidé de faire ça.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut trouver les moyens de maintenir une offre de livres intéressants puis une structure qui permet de distribuer ces livres-là. Mais il me semble qu'il faut aussi trouver des façons d'entretenir la demande de livres. Il faut qu'il y ait des gens qui continuent d'avoir envie de lire, d'acheter ces livres-là aussi. On est dans une culture de l'image. Les objets soi-disant miraculeux qui vont sauver le livre sont des, comme le iPad, sont des objets qui sont beaucoup plus favorables aux trucs multimédia qu'à la lecture comme telle. Donc, je voulais savoir si vous aviez une réflexion par rapport à ça au niveau de comment on nourrit ce besoin-là, ce désir-là d'acheter des livres au-delà de juste en offrant des livres de qualité.
Oui, non, vous avez raison, naturellement. La question, c'est comment atteindre les lecteurs possibles d'un livre. Et c'est pas toujours les acheteurs possibles. Mais il y a beaucoup, c'est une question dont on parle pas du tout. Et en commençant la New Press, comme j'ai dit il y a 20 ans, on a décidé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire qui serait différent. Et je vais vous expliquer une des expériences que nous avons fait parce que c'est quelque chose qui pourrait avoir d'intérêt ici. On publiait beaucoup de livres sur l'histoire des minorités américaines, des esclaves noirs, etc. Et un des livres que j'avais découvert dans la bibliothèque du Congrès américaine, c'était que dans les années 30, on avait enregistré des interviews avec des anciens esclaves. Des disques tout à fait remarquables, jamais édités. Et on a décidé d'en faire un bouquin. Et je ne sais pas ce qu'on pourrait trouver dans les archives canadiennes, n'est-ce pas? Mais enfin, c'était une question de retrouver une histoire inconnue. Et alors, on a fait des très très beaux livres, avec ses comptes rendus, avec des disques, etc. Mais ça n'allait pas automatiquement atteindre le public qui avait un intérêt le plus important, c'est-à-dire des familles noires qui n'étaient pas nécessairement des acheteurs de livres, bien qu'en Amérique, le public noir achète plus de livres per capita que des blancs. C'est intéressant comme chiffre. Alors, nous avons fait un accord avec un syndicat d'ouvriers d'hôpitaux. Qui sont presque entièrement, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais en Amérique, sont presque entièrement noirs. Et on a trouvé des comédiens qui, à l'heure du déjeuner, sont venus dans les hôpitaux pour lire ces textes. Et ça a eu un effet tout à fait foudroyant, parce que ce public qui n'aurait pas acheté le livre et qui ignorait entièrement l'histoire de leurs ancêtres, qui était très dramatique et très beau, ont entendu pour la première fois un aspect de l'histoire de la famille qu'ils ignoraient. Et on a fait ça dans des douzaines de lieux, même en plein air. Et ça a très très bien marché. Et c'était pour nous une expérience très importante, parce que ça montrait à quel point, normalement, quand on est éditeur, on est bourgeois, on est blanc, on est bobo, on ne pense pas au public ordinaire. Qui pourrait avoir un intérêt dans les livres que nous faisons. Et c'est une expérience qui a très très bien marché, et c'est quelque chose qu'on pourrait faire n'importe où. Et j'ai même proposé des fois que les universités, les grandes universités, quand ils font des conférences sur l'histoire de l'immigration, de ce qu'on veut, n'est-ce pas, pourraient faire ça pour un public qui n'est pas seulement les étudiants, mais qui sont les gens qui travaillent à l'université. Les gens qui balayent les couloirs peuvent avoir un intérêt aussi grand que n'importe quel étudiant dans certains sujets sur lesquels on donne des conférences tout le temps, mais on s'adresse jamais aux autres gens. Donc ça ouvre toute une autre question politique, mais c'est une question importante, n'est-ce pas, qui sont nos lecteurs, qui devraient être nos lecteurs, comment peut-on les atteindre? Et là, je crois que l'édition, les universités, tout le monde sont coupables des mêmes préjugés, n'est-ce pas? On pense des gens qui sont comme nous. Et ce n'est pas nécessairement les seuls qu'on devrait atteindre.
Vous avez mentionné que, dans le milieu de l'édition, les marges ne sont jamais très importantes et c'est pas un endroit où on travaille, où on investit, ou en tout cas, pour faire de l'argent. Mais moi, j'aimerais vous poser comme question, faut-il être riche pour travailler dans le milieu de l'édition? Parce qu'il y a beaucoup, de structures éditoriales qui sont nées, qui sont des structures éditoriales indépendantes, qui sont nées ces dernières années et qui ont été fondées par des gens qui sont soit rentiers ou qui ont fait fortune dans une autre vie. Et qui deviennent éditeurs un peu par passion et parce qu'ils se découvrent sur le tard un intérêt pour les métiers du livre.
Enfin, naturellement, ça ne fait pas du mal d'avoir de l'argent. Mais ce n'est pas essentiel, n'est-ce pas? J'en ai jamais eu et la plupart des gens que je connais ont travaillé pour des salaires qui étaient, comme j'ai dit, équivalents de ce qu'ils auraient gagné dans les universités. Et ils étaient très heureux avec ça. C'est vrai qu'il y a des jeunes gens qui veulent des danseuses et qui commencent des maisons. On peut en nommer en France un certain nombre. Mais je ne crois pas que c'est essentiel. Bien, enfin, merci beaucoup. Merci à vous tous.